Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Il faut bien commencer par un bout. Le bon bout de la raison. Le bon bout de la raison, ce sera plus tard, bientôt. En attendant, il faut rencontrer les protagonistes de l'aventure. Un crime diabolique, c'est à n'y rien comprendre. Rouletabille va entrer en scène. Le mystère de la chambre jaune deviendra, par chance pour le lecteur, par chance pour l'auditeur, et certainement par chance pour Rouletabille lui-même, ce mystère donc deviendra de plus en plus épais. Pas de précipitation pour autant, nous ne sommes pas encore au Glandier. D'ailleurs, oubliez, si possible, votre lecture, jadis ou naguère, du roman de Gaston Leroux. Ayez une écoute vierge et soyez attentif, la vérité est en marche. Voici les deux premiers épisodes du feuilleton Le mystère de la chambre jaune, première diffusion sur France Culture, les 1er et 2 août 1983.
Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
C'est vous, Clara?
Oui, monsieur.
Mais est-ce que vous savez l'heure? Entrez. Bon, enfin, c'est de la folie, Clara. Je vous ai pas demandé mon petit déjeuner, alors.
Monsieur, c'est un monsieur qui demande monsieur.
À 8h du matin? Alors que... je n'ai même pas encore pris mon sacro-saint café matinal. Alors là, vraiment, Clara, je vais me mettre en colère.
Oh non, monsieur, ne faites pas ça. Monsieur est si bon.
Ah oui, mais enfin, qui me demande à une heure pareille?
Monsieur Rouletabille.
Ah, Rouletabille? Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Allez, Clara, faites entrer tout de suite ce monsieur. Allez, au galop, au galop.
Bien, monsieur.
Sinclair, mon cher Sinclair. Vous avez lu le journal?
Hein? Quel journal? Je suis encore dans mon lit, mon vieux.
Mais celui-ci, celui-ci, tenez, le matin, regardez. Gros titre en première page, drame au château du Glandier, le mystère de la chambre jaune.
Bon, j'ai seulement parcouru l'article d'hier, je me souviens très bien, on y évoquait le drame du Glandier, mais il n'y avait pas une seule ligne sur le... comment vous avez dit?
Le mystère de la chambre jaune.
Écoutez, soyez gentil, asseyez-vous, vous me donnez le mal de mer. Vous voulez une tasse de café?
Impossible, Sinclair, il faut que je parte.
Ah bon? Mais vous allez où?
Mais comment où je vais? Comment où je vais? Je vais au château du Glandier, bien sûr.
Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord, j'ai menti. J'ai lu le journal d'aujourd'hui.
Ah.
Bah oui, parce que Clara le pose toujours sur ma table de nuit avant de me porter mon petit déjeuner. Il n'y a toujours pas de café.
Non.
Eh bien, au moment où vous vous êtes fait annoncer d'une façon intempestive, je me disais que je n'allais pas tarder à vous voir.
Et je suis là.
Et un peu là. Voilà. Alors, cette chambre jaune, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, le crime a été commis d'une façon diabolique. C'est à n'y rien comprendre.
Enfin, soyons sérieux, Joseph. Je reconnais que votre confrère du matin a bigrement forcé la note en ce qui concerne le mystère. Il a collé de l'étrange partout et... sans doute là où il n'y en avait probablement pas. Bah, bref, il a écrit son article comme on retient son souffle. Mais cela dit, vous prenez l'affaire par n'importe quel bout, elle paraît insoluble.
Ah, mon cher Sinclair, je ne crois pas beaucoup aux assassins qui passent à travers les murs. Non, le passe-muraille est une vue de l'esprit, voyez-vous.
Ouais. Alors comment expliquer l'énigme?
Je vous ai dit que pour l'instant, je ne savais pas.
Enfin, mademoiselle Stangerson, attaquée sauvagement et grièvement blessée dans une chambre... fermé de l'intérieur.
Bah oui, Sinclair, fermé de l'intérieur.
Devant la fenêtre se trouve un premier témoin, le père Jacques. Devant la porte, toujours à l'extérieur, un second témoin, le professeur Stangerson, le père de la victime. Or, ces deux hommes continuent à entendre les cris de terreur poussés par la jeune fille. Unissant leurs efforts, Jacques et Stangerson enfoncent la porte. Mathilde est seule, la pièce est vide.
Vous oubliez une multitude de détails.
Ah, pas du tout.
Ah, mais quand les deux hommes pénètrent dans la chambre, les tables et les chaises sont renversées. Mademoiselle Stangerson porte au cou des traces de griffes. A-t-on voulu l'étrangler, ça? Elle porte également un trou sanglant à la tempe,
oui.
À la tempe droite. On a volé le revolver du père Jacques et il y a également une trace sanglante étalée sur le mur. La main de l'assassin.
Alors là, mon cher Rouletabille...
Alors tout ça pour vous dire que j'attends avec impatience le résultat de l'enquête du juge chargé de l'instruction. Pensez, il va faire procéder à des sondages des murs, des parquets, et j'espère que nous ne tarderons pas à savoir par quelle trappe ou par quelle porte secrète ou par quel souterrain l'assassin, si c'est le père Jacques, a pu se glisser pour revenir immédiatement dans le laboratoire. Et ceci face à la porte fermée de la chambre et sans que le professeur ait eu le temps de s'apercevoir de quoi que ce soit.
Bravo.
Bravo.
Oh, c'est prodigieux. Ah si, ah, c'est prodigieux. D'ici, de Paris, simplement, en réfléchissant posément au problème, le célèbre Rouletabille l'a déjà résolu.
Et vous avez marché,
hein?
Et vous avez écouté. Et il ne vous est pas venu une seconde à l'esprit que je me faisais l'écho de l'explication toute prête qu'on a livrée aux imbéciles et aux gogos. Vous avez pu imaginer Rouletabille prenant à son compte un pareil Himalaya de sottise. Allez, levez-vous, Sinclair, habillez-vous, je vous emmène.
Ah oui, non, mais...
Ne vous faites pas tirer l'oreille, je vous en prie. D'ailleurs, nous continuerons à bavarder pendant que vous vous préparez.
Joseph, Dieu sait que je vous aime bien, mais vous êtes envahissant.
Je vous attends, pressez-vous.
Oh, bon, écoutez, alors là, vraiment, j'ai horreur de... Bon, ben, je me dépêche.
Quand je pense... Quand je pense que vous êtes avocat...
Oh, alors ça, vous dites ça sur un ton qui ne me plaît pas du tout.
Hein. Ah, je ne doute pas un seul instant de votre talent à faire acquitter des coupables quand je vous vois plonger tête baissée dans le Paris Sornette.
Joseph, vous êtes insolent avec la magistrature.
Et je frémis en pensant que si vous devenez un jour magistrat-instructeur... Vous ferez condamner des innocents avec la même tranquillité d'esprit.
Et maintenant, vous êtes insolent avec la magistrature.
Eh bien, levez-vous. Voilà votre robe de chambre.
Allez. Merci.
Bon. Vous avez l'air merveilleusement inspiré, mon cher Sinclair. Mais en fait, vous cherchez quoi, là?
Ben, je cherche mes pantoufles. Je les avais il n'y a pas 10 minutes.
Mais elles sont à vos pieds, mon cher maître.
Ah bon? Oui, ben alors là, c'est votre faute.
Comment ça?
Ah ben oui, je suis désolé, Rouletabille. Vous entrez chez moi comme un ouragan alors que le soleil est même pas levé. Vous bousculez ma femme de chambre. Vous renversez mon petit déjeuner. Puis ensuite, vous insultez le corps admirable auquel j'appartiens. Uniquement parce que j'ai souscrit trop vite et de confiance à vos élucubrations. Que d'ailleurs, je n'écoutais pas. Alors là, je vous le dis tout de suite et nettement, Joseph. Trop, c'est trop.
Je suis un vrai cochon.
Oh ben non, là c'est peut-être quand même un peu exagéré, tout de suite un vrai cochon, comme vous y allez.
Je suis un vrai cochon, vous dis-je. Je sens la truffe.
Ah,
Sinclair, prêtez-moi toute votre attention et mettez-vous ça dans la tête.
Oui.
On ne trouvera aucune trappe et le mystère de la chambre jaune deviendra de plus en plus mystérieux. Et voilà pourquoi il m'intéresse. Le juge d'instruction a raison quand il déclare qu'on n'aura jamais vu quelque chose de plus étrange que ce crime-là.
Et vous? Vous avez une idée du chemin qu'a emprunté l'assassin pour s'enfuir?
Moi? Aucune idée.
Aucune idée, pour l'instant.
Ouais.
Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous avez perdu quelque chose?
Ah oui, j'ai perdu mes chaussettes.
Mais aucune importance. Mettez les miennes.
Ah bah oui, alors, et vous?
Le temps de les retrouver, je mettrai les vôtres. Ah. D'ailleurs, tenez, les voilà. Ça vous arrive souvent de les mettre dans le vase de Chine?
Oh, faut.
Sinclair, en ce qui concerne le glandier, j'ai déjà ma petite idée sur le revolver. Oui, il n'a pas servi à l'assassin.
Ah bon?
Ah non.
Ben alors, il a servi à qui?
À mademoiselle Stangerson, à la victime.
Alors là, je ne comprends pas. J'irai même plus loin, je n'ai jamais compris.
Tenez, voilà le chausse-pied.
Ah, le chausse-pied, oui.
Mais non, ne le mettez pas dans votre poche. C'est pour vos chaussures.
Oh, écoutez, Joseph, si vous arrêtiez de me bousculer.
Mon cher, si vous aviez lu attentivement l'article du matin, ça vous aurait frappé.
Oh, je vous en prie.
Rien ne vous a troublé?
Encore une fois, non. Ah. J'ai trouvé tout ce qui était écrit extrêmement bizarre, c'est tout. Bon, vous permettez, je vais me brosser les dents.
Mais hein. Oui, brossez-vous. Laissez la porte ouverte que nous puissions continuer à bavarder.
Oui.
La porte!
Par quoi la porte est ouverte? C'est bien ce que vous m'avez demandé.
Mais non, je ne parle pas de la vôtre. Je parle de celle de la chambre jaune.
Ah ouais? Et alors?
Elle était fermée à clé.
Ah mais ça, c'est le seul fait qui ne soit pas bizarre.
Ah vraiment? Et le verrou?
Où? Ah! Quel verrou?
Le verrou poussé de l'intérieur. Ça vous dit rien, ça? Un verrou poussé de l'intérieur? Vous trouvez pas que mademoiselle Stangerson prend bien des précautions lorsqu'elle couche dans la chambre contiguë au laboratoire de son père? Comment? Elle ferme à clé, pousse le verrou, emprunte le revolver du père Jacques sans le lui dire? À l'évidence, elle craint quelque chose ou quelqu'un. Alors bien sûr, elle ne veut effrayer personne, et surtout pas son père. Et ce qu'elle redoute arrive. Mais dites, vous m'entendez, Sinclair?
Je pense bien que je vous entends, j'entends même que vous.
Bon.
Bon, si je comprends bien, selon vous, ce serait mademoiselle Stangerson qui aurait tiré
pour se défendre.
Mais exactement. C'est vrai que le journal parle de blessures à la tempe et de détonation. Mais il ne fait pas le rapprochement entre les deux faits.
Ouais. Ah, zut, le café est froid.
Et pourtant, c'est bien la fille du professeur qui a tiré pendant que son agresseur cherchait à l'assommer après avoir vainement tenté de l'étrangler.
Ouais. Et ça vous met nous, tout ça?
Écoutez, l'assassin devait savoir que le grenier était habité par le père Jacques. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, il a voulu opérer avec une arme de silence. Une matraque. Un marteau.
Ouais. Seulement, on tourne en rond, mon bon ami.
Ben pourquoi dites-vous ça?
Mais je vous dis ça parce que nous ne savons toujours pas comment l'assassin est sorti de la chambre jaune.
Sans doute aussi simplement que vous êtes sorti de la vôtre il y a une minute.
Et alors, mon petit Joseph, vous êtes fou, vous dites n'importe quoi.
Et vous, mon bon maître, vous n'avez mis qu'une chaussette.
Hein?
L'autre est dans votre poche pochette.
Oh.
Ah, même pour circuler en Ile-de-France, il est recommandé de mettre deux chaussettes.
Alors là, je vais vous dire, Rouletabille, vous m'agacez.
Allez, je vous agace, mais dépêchez-vous si vous voulez percer le mystère de la chambre jaune. Il faut que nous nous rendions au glandier. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu vous chercher de si bon matin.
Eh ben voilà, deux chaussettes identiques et deux chaussures semblables.
Quoi? Vous avez dit quoi? Vous voulez quoi?
Que vous soyez près de moi au château du Glandier, j'ai besoin de vous.
Monsieur.
Eh oui, mon journal L'Époque, qui n'a rien à voir avec cette feuille de chou du matin, m'a chargé définitivement de délucider l'affaire, et naturellement, dans les plus brefs délais.
Mais nom d'un petit bonhomme, qu'est-ce que je viens faire là-dedans?
Je vous le dirai, en nous rendant à la gare d'Orléans.
Bon. Bon, bah, Clara! Clara!
Oui, monsieur.
Clara, mon petit, vous êtes gentil. Vous remettez de l'ordre dans tout l'appartement, puis alors... Vous décommandez tous mes rendez-vous, voilà.
Monsieur revient quand?
Ah, alors là, si je le savais, ma bonne Clara. Bon, bah, allez, filez.
Bien, monsieur.
Et maintenant, à la gare!
Voilà.
Sinclair, votre chapeau!
Qu'est-ce qu'il a, mon chapeau?
Mettez-le!
Oui.
Et rendez-moi ma casquette.
Oh, pardon! Allez.
Thank you.
Joseph.
Ah.
Bon, écoutez, Joseph, par pitié, moi, vite.
Allons-y. Pas une minute à perdre, je veux pas manquer le train. Attendez, cocher. Cocher.
Hola, hola. Doucement, César. Doucement, mon grand.
Oui, messieurs. À la gare d'Orléans, cocher, le plus vite possible. Allons-y vite, montez, montez.
Oh, oh mon cher, c'est incroyable. Oh. Ah, vous avez un souffle inépuisable. Ça, je viens à peine d'ouvrir un œil, je suis déjà épuisé. C'est fou, c'est complètement fou.
Udon, César, Udon, mon pépère.
Il appelle Pépère un des plus grands noms de l'Empire romain.
Eh, dame, c'est que mon César n'est pas un Jules, mon bon monsieur.
Oh, oh. 5 francs pour vous si vous le faites aller au trot.
Eh ben, c'est qui que vous voudriez lui faire passer le Rubicon à mon César?
Ah, bravo, cocher. Vous êtes un érudit.
Aujourd'hui, et compte tenu de la crise, on peut être cocher sans déchoir. Et pas forcément un imbécile.
Et voilà, bien répondu, cocher. Vous aurez vos 5 francs.
Et vous irez au trot. Allez, hop.
Mais tout ça ne me dit pas pourquoi je... Je me trouve ici et embarqué à vos côtés dans cette affaire de Glandier. Mais où que je vous dise, Joseph, vous êtes un ouragan, une tempête, pire, un maelstrom.
Mais rien de tel pour pimenter la vie, mon bon maître.
Mais enfin, écoutez, moi je suis avocat, je suis votre ami, c'est une affaire entendue, mais enfin je suis avocat, je suis pas journaliste.
Ah non,
mais je suis pas détective.
Encore moins.
Je n'ai rien d'un fin limier.
Mais Dieu merci, autrement je serais obligé de vous considérer comme un concurrent.
Ben alors.
Mais c'est pas l'homme de robe que je prie de me suivre.
Ah non?
Non, c'est l'ami que j'emmène. C'est l'ami dont j'ai besoin.
Ben vous m'auriez dit ça tout de suite, on aurait gagné un temps fou. Eh ben disposez de moi, d'ailleurs vous ne faites pas autre chose depuis une heure.
Sinclair, Robert Darzac est au château du Glandier.
Ah, c'est vrai. Le pauvre Darzac, pauvre ami. Oh, il doit être au désespoir. Ça, c'est un drame affreux hein, pour lui. Mmh. Une situation déchirante. Oui, mais seulement, je ne vois pas le rapport.
Oh, vous ne le voyez pas. Vous êtes charmant.
Oh.
Écoutez, vous connaissez bien Darzac, il faut absolument que je lui parle.
Et vous voulez que...
Oui.
Enfin, vous croyez à quelque chose d'intéressant de
ah,
côté-là
oui. Ah oui, ma main a coupé.
Et mon rôle à moi là-dedans?
Oh, décidément. Vous n'avez aucune imagination, mon cher maître.
Bon, enfin, vous m'insultez en plus.
Comment avez-vous... Racontez-moi, comment avez-vous connu Darzac?
Comment je l'ai connu? Ah, bah, disons que je lui ai rendu un service. Oui, un service d'ordre juridique. Oh, c'est une cause parfaitement honorable, d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, de plus, vous le savez, Darzac est intimement lié avec les Stangerson. Enfin, ça fait... Ah oui, ça fait 7 ans qu'il fait une cour assidue à Mathilde Stangerson et leurs fiançailles sont toutes récentes.
Un indécis, en somme.
Ah non, pas vraiment, non, non. Mais ben, ça intimide à coup sûr.
De quoi a-t-il l'air?
Mais... La quarantaine agréable.
Oh, un vieux, quoi.
Hé, hey, Joseph, doucement, hein, tout doucement. Parce que j'ai sensiblement le même âge que Darzac. Alors, pitié pour les vieux que nous sommes, hein. Et comme de toute façon, vous avez sûrement quelque chose à lui demander.
Touché. Vous lui avez rendu service. Il vous rendra le service de me rendre service. Ce qui, entre nous, pourrait bien lui rendre service, vu.
Ah non, rien du tout. Ah non, alors là, je comprends rien du tout. Non, toutefois, dans l'état où il se trouve, je ne pense pas que ce soit le moment idéal pour lui demander une faveur, enfin, le mettre à contribution. Enfin, si j'étais à sa place...
Mais ah oui, mais vous n'êtes pas à sa place, Sinclair. Et vous pataugez dans un océan d'argusies fallacieuses.
Mmh.
Cela dit, n'enviez pas la place de Darzac, hein, pour le moment. Elle n'a rien de plaisant, d'ailleurs. Je vais vous dire une chose, c'est pas ça qui me préoccupe.
Ah bon?
Non.
Parce que vous avez aussi une idée sur la condition de l'assassin.
Ah oui, oui, je le crois homme du monde.
Sinon
d'une classe relativement élevée. Remarquez, Sinclair, il ne s'agit que d'une première impression. C'est vrai, et il faut toujours se méfier d'une première impression.
Ah bon, pourquoi?
Ah ben, parce que c'est la bonne.
Ah bon. Oui, mais qu'est-ce qui a étayé cette première impression?
Oh, mais vous m'avez bien dit que vous aviez lu le journal.
Oui, et alors?
Ben écoutez, Sinclair, vous me navrez.
Oh, allez-y, dites-moi encore une fois ce que je n'ai pas remarqué.
Mais simplement les traces laissées par l'assassin.
Les traces?
Eh oui, elles ne vous donnent pas à réfléchir.
Ah, pas une seconde.
Voyons, mon bon maître. Un béret crasseux.
Mmh, un béret crasseux.
Un vulgaire mouchoir de grosse toile.
Oui.
Et les traces grossières de chaussures sur le plancher.
Ah. Ah bah oui, bah j'ai compris, bien sûr. Bah oui, bien sûr, on ne laisse pas autant de traces derrière soi quand elles sont l'expression de la vérité.
Voulez-vous que je vous dise une chose? Si les petits cochons ne vous mangent pas, je ne désespère pas de faire de vous un grand criminologue.
Ouais, bah vous êtes bien gentil, mais j'ai l'impression là que vous allez un peu loin.
Oh là, là César, doucement, doucement. Voici la gare d'Orléans, messieurs. Ah. César a trotté et vous êtes à l'heure.
Merci, cocher. Nous avons juste le temps de sauter dans le train.
Vous m'aviez promis 5 francs.
Oui, 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 vous les aurez. Saint-Clair, donnez donc une pièce de 5 francs à cet érudit.
Mais
pendant ce temps-là, je m'occupe des billets.
Enfin, 5 francs.
C'est... Rendez-vous sous l'horloge, hein? Et pressez-vous.
Bon, et dire que je me fais avoir à tous les coups, c'est pas possible. Voilà vos 5 francs, cocher.
Merci beaucoup, mon prince. Ah. Allez! Allez, viens! Hue! Hue, César! Allez, hue! Allez, hop!
S'il vous plaît, monsieur, le train d'Épinay-sur-Orge.
On vient de l'annoncer, monsieur. Voie 4 en face de l'horloge. Départ dans 2 minutes.
Ah bon, merci. Merci.
Saint-Clair ! Oui ! Saint-Clair !
C'est par ici.
Vous avez les billets ?
Oui, bien sûr.
Bon, bah, avançons. Qu'est-ce que vous attendez ?
Oh, ben, je voudrais bien trouver une place assise, moi.
Vous l'aurez, vous l'aurez. Au besoin, sur mes genoux. Impétueux flemmard. Ah, là-dessus, il faut absolument que je mette la main sur le juge d'instruction du tribunal de Corbeil, le juge de Marquet.
Ah bon? Mais comment savez-vous qu'il est dans le temps?
Une indiscrétion qui m'a coûté un peu de monnaie. Ah oui, moi aussi, j'ai mes indicateurs. J'ai su qu'il se rendait ce matin au Glandier. Il faut absolument que je lui tire les verres du nez.
Rouletabille, vous êtes un incorrigible optimiste.
Pourquoi?
Non, écoutez, pensez-vous sérieusement que sur le vu de votre petit air, monsieur je sais tout, un magistrat aussi sévère et aussi important que monsieur de Marquet va vous faire des révélations concernant l'affaire du Glandier?
Mon cher Sinclair, je vais beaucoup plus loin, non seulement je le pense, mais j'en suis persuadé.
Eh bien alors, je vais vous dire, vous êtes fou. Fou allié, parce... Et les chevilles, ça va, mon petit Rouletabille? Parce que la vantardise vous perdra, mon vieux.
10 contre 1.
Vous êtes bien sûr de vous.
Ah, je maintiens, 10 contre 1. J'ai plus d'un tour dans mon sac, vous savez.
Oui, mais enfin, devant un juge d'instruction.
Mais j'ai une main pleine d'atouts, à moins de les jouer avec discernement.
Enfin, un peu de clarté, Rouletabille. Quels sont ces atouts dont vous vous gargarisez?
Attendez, ce compartiment-là...
Ah oui.
Non, il est plein.
Ah bon?
Oui, mais je vais vous répondre. Sous le couvert d'un strict incognito, le sévère juge de Marquet devient tous les soirs sur le coup de 10 heures un auteur de revue à la mode.
Non, c'est pas possible.
Mais comment c'est pas possible? Mais il signe les livrets sous un pseudonyme, Castigat Ridindo.
Mais il serait sûrement plus à l'aise que Conti que des orfèvres, non?
Et il se trouve que l'on donnait hier la répétition générale de sa dernière revue à la Scala.
Oh, c'est pas vrai.
Et puisque je vous le dis...
Oh!
Viens t'asseoir sur mes genoux, c'est... Cette revue déshabillée, c'est de lui?
Pour le livret, oui.
Cette revue?
Une revue de détail, je vous l'accorde, mais... Attendez. Le voilà. Il est en grande conversation avec son greffier, monsieur Malène. Suivons-les tous.
Porteur! Voici notre compartiment, mon cher Malène. Pourvu que cet entrepreneur que nous avons commis ne nous démolisse pas avec sa pioche un aussi beau mystère.
N'ayez aucune crainte, monsieur le juge. Il démolira peut-être le pavillon, mais il laissera l'affaire intacte.
Ah oui.
Eh oui, j'ai tâté de le plancher, sonder les murs, vérifier le plafond, et vous savez si je m'y connais.
Eh bien.
Eh bien, monsieur le juge, absolument rien. Soyez tranquille.
Donc le mystère restera entier.
Ah, entier. Complètement, tout à fait entier, monsieur le juge. Je vous le promets.
Bien.
Oh, oh c'est fou, tu marches. Dieu que ces trains sont mal commandés.
C'est bien mon avis.
Bon, Malène, je compte absolument sur vous. Je ne veux en aucun cas être dérangé pendant le voyage. Pas de journaliste, personne.
Greffier, mais Cerbère, monsieur le juge. Mais pas personne, comptez sur moi.
Oui, enfin, si vous voulez, n'importe quoi.
Ah, nous y voici. Venez, mon cher Sinclair.
Ah non, je suis au regret, messieurs, mais ce compartiment est réservé.
Ah, réservé, je suis confus, j'avais pas remarqué.
Ah, croyez bien que je suis désolé, monsieur.
Ah, permettez-moi de me présenter, Joseph Rouletabille, rédacteur en chef à l'Époque. J'aurais voulu dire un petit mot à monsieur de Marquet.
Oui, mais c'est justement ce qui est impossible. Oh. Monsieur le juge de Marquet se refuse à toute déclaration, à plus forte raison, dans un wagon de chemin de fer. Vous devez comprendre, monsieur, que monsieur le juge de Marquet est très absorbé par son enquête.
Quelle enquête ?
Eh ben voyons, l'assassinat du château du Glandier.
Ah, l'affaire du Glandier, il s'agit bien de ça. Mais non, ce qui me préoccupe est tout à fait différent. Je ne fais pas les chiens écrasés, moi, monsieur. Je suis responsable de la chronique des spectacles. Vous comprenez ?
Pas un mot, monsieur.
Ben, enfin, monsieur de Marquet, dites quelque chose.
C'est-à-dire que c'est extrêmement délicat, n'est-ce pas ?
Mais voilà, il faut que je fasse un compte-rendu sur la représentation d'hier soir. La revue de la Scala, un énorme succès.
Ah, oui, la revue de la Scala, oui, évidemment, oui. Alors là, c'est différent.
Écoutez, Malène, soyez gentil, attendez dans le couloir.
Bien, monsieur le juge.
Merci.
Voilà. Pardonnez-lui, monsieur le juge, j'ai forcé la consigne. Mais c'est pas au magistrat, vous l'avez compris, que je désire parler. C'est El Signor Castigavridendo qui m'intéresse.
Taisez-vous, malheureux, parlez moins fort.
Oui,
si mal entendait.
Oui. Je vous présente mon ami maître Sinclair du barreau de Paris.
Oh, c'est une conspiration. Enchanté, maître. Mais je vous demande, au nom du Conseil de l'Ordre et du secret professionnel, de garder sur cette affaire.
Mais vous avez ma parole.
Oh, mais bien sûr, nous venions tous les deux vous féliciter pour votre beau succès d'hier soir.
Oh, bon, vous savez.
Écoutez.
Non, succès, non. Je suis sensible, messieurs, mais mon modeste talent.
Oh, bon, modeste talent, comme vous y allez. Viens t'asseoir oui. Sur mes genoux. Je te sens, tu me sens, c'est très
oui,
doux.
Vous êtes
un véritable artiste,
non, je vous dis. Incognito, messieurs, incognito, vous imaginez sans peine les répercussions que pourrait avoir l'essor sympathique de l'auteur à la mode sur la carrière austère du magistrat réputé.
Mais c'est bien normal.
Or, vous devez savoir qu'une affaire importante m'appelle à Épinay-sur-Orge. L'affaire du Glandier.
Redoutable responsabilité.
Oh. Simple affaire de routine.
Ah bon, vous pensez ?
Bien entendu.
Le train express en direction d'Arcueil. Cachan. Bourg-la-Reine. Anthony. Massy. Longjumeau. Épinay-sur-Orge et Montlhéry. En voiture pour le départ. Attention, fermez les portières, s'il vous plaît.
Et voilà, le train part.
La vérité est en marche, monsieur le juge.
En effet, la vérité est en marche.
C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Reims. Aujourd'hui, premier épisode avec Rouletabille, Philippe Nicot. Sinclair, Philippe de Reims. Malène, Yves Pénaud. Clara, Daniel Danjou. De Marquet, Roger Carrel. Le cocher, Gaëtan Genre. Et les voix de Jacques Maire, Georges Lucas, Michel Amiel. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Oui, monsieur le juge, la vérité est en marche vers le château du Glandier. Ah, c'est une belle affaire, monsieur le Marquet, une très belle affaire.
Obscure, mon jeune ami, incroyable, insondable, surprenante. J'irai plus loin, je dirais que l'affaire est inexplicable. Je ne crains qu'une chose, monsieur Rouletabille.
Ah oui, quoi donc ?
Que les journalistes se mêlent à n'importe quel prix de la vouloir expliquer.
Ah, comme vous avez raison, c'est en effet à craindre, les journalistes se mêlent de tout, c'est bien connu. En ce qui me concerne, monsieur le juge, je vous parle de tout ça uniquement parce que le hasard m'a mis sur votre chemin, dans votre compartiment, pour ainsi dire. N'est-ce pas, maître Ridindo ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et peut-on vous demander où vous vous rendez présentement ?
Au château du Glandier.
Quoi ?
Au château du Glandier ?
Oui, oui, j'avais compris. Allons, non, ça c'est impossible. C'est absolument impossible, vous ne pourrez pas entrer.
Mais comme, ne me dites pas que vous comptez vous y opposer, monsieur le juge.
Ah, moi, oh non, pas une seconde. Ah. J'aime trop les journalistes et la presse pour leur être désagréable ou quoi que ce soit. Mais le professeur Stangerson a condamné sa porte à tout le monde. Et elle est bien gardée. Pas un journaliste n'a pu encore franchir la grille du Glandier.
Bah écoutez, très honnêtement, monsieur le juge, j'aime autant ça. En fait, mon ami Sinclair et moi-même allons au château pour y serrer la main et réconforter notre vieil ami Darzac. Pauvre Robert, n'est-ce pas, Sinclair ?
Ah oui, oh, pauvre Robert. Il aimait tant Mathilde Stangerson.
Oui, sa douleur fait peine à voir.
Oh, il faut espérer que mademoiselle Stangerson sera sauvée.
Oui, il le faut, il le faut. Car compte tenu de l'état d'esprit, du chagrin du professeur, si sa fille devait succomber, je crains bien que lui-même l'attente à ses jours.
Mon Dieu.
Et ce serait une perte irréparable pour la science.
La blessure à la tempe est grave, n'est-ce pas ?
Oui, mais pas mortelle. Ah. Et c'est une chance inouïe, car le coup a été porté avec une violence, force.
Pardonnez-moi, le coup, ce n'est pas le revolver qui a blessé mademoiselle Stangerson ?
Et comme... Non. Je n'ai rien dit, je ne sais rien, je ne peux rien dire de plus.
Mais c'est bien normal, monsieur le juge, n'est-ce pas, Sinclair ?
Ah oui, alors, tout ce qui est plus normal.
Voilà. Toutefois, il y a quelque chose que je puis vous demander sans commettre d'indiscrétion. Avez-vous lu l'article du matin ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Il est absurde, ah,
absolument.
Pas...
Non, pas du tout, pas du tout. Pas du... Bah, voyons, mais pas le moins du monde.
Mais comment, monsieur le juge, la chambre jaune n'a qu'une fenêtre munie de grilles et dont les barreaux n'ont pas été décellés ? Une porte que l'on enfonce, et malgré cela, on ne trouve pas d'assassin.
Oui, Sophie, qu'est-ce que vous faites ? C'est comme ça, et c'est comme ça que se pose la question. Ah, Malène, vous êtes de retour. Asseyez-vous.
Une petite question. Mademoiselle Stangerson portait bien ses cheveux en bandeau le soir du drame.
Ah non, monsieur Rouletabille, vous êtes dans l'erreur.
Ah, comment ça ?
Eh oui, pardonnez-moi d'intervenir, monsieur le juge, mais j'étais présent quand vous avez examiné la victime et j'entends encore le légiste vous dire « C'est bien dommage que mademoiselle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front. Si elle avait porté des bandeaux, le coup aurait été amorti. »
Oui, c'est Malène, mon greffier. Il est merveilleux, non ? Il a une mémoire de l'effort.
Oui, c'est parfaitement exact, en effet.
J'ai trop indulgent, vraiment.
Et la blessure à la gorge...
Ah, si l'assassin avait serré quelques secondes de plus, plus de mademoiselle Stangerson.
Monsieur le juge, je vous rends grâce, cette affaire apparaît de plus en plus inexplicable. Et combien y a-t-il d'ouvertures au pavillon, je veux dire, portes et fenêtres ?
Cinq. dont la porte du vestibule, qui est la seule entrée du pavillon et qui se trouve automatiquement fermée. Mmh. Elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur ou de l'extérieur que grâce à deux clés spéciales qui ne quittent jamais le père Jacques et le professeur Stangerson.
Donc, reste quatre fenêtres.
Ah, parfaitement déduit. Celle de la chambre jaune, les deux du laboratoire et celle du vestibule qui seule donne sur le parc.
Et c'est par cette fenêtre que l'assassin a quitté tout naturellement le pavillon.
Et comment le savez-vous ?
Mais voyons, c'est enfantin. Primo, la porte du vestibule est fermée. Deuxio, les fenêtres sont grillagées. Troisio, si j'ose dire, c'est forcément par ce chemin que l'assassin s'est enfui, c'est QFD. Ne me dites pas, monsieur le juge, que cette pensée ne vous était pas venue.
Et... Eh, mais attends, ben, si, bien sûr, ah. Si. Seulement, il y a deux choses que je sais et que vous ne pouvez deviner. Cette fenêtre, la seule à ne point posséder de solides barreaux, comprend par contre des volets de fer inviolables, indestructibles. Or, l'enquête a prouvé que ces volets étaient restés fermés de l'intérieur par le loquet. Et pourtant, nous avons la preuve que le meurtrier s'est en effet enfui par cette fenêtre.
Eh bien, c'est tout simplement prodigieux.
Mais oui, l'ennui, c'est de posséder les preuves et d'être incapable de les expliquer. Mais comment l'assassin est-il sorti de la chambre jaune? Comment a-t-il pu traverser forcément le laboratoire pour arriver au vestibule? Et enfin, comment est-il sorti par une fenêtre dont les volets sont restés fermés de l'intérieur? Voilà. Voilà, cher monsieur Rouletabille, une affaire hallucinante. Belle, certes, belle, mais hallucinante. Et dont on ne trouvera pas la solution de sitôt.
Sauf, si l'on admet que quelqu'un a fermé la fenêtre après le départ de l'assassin.
Après la fuite du... Ah oui, évidemment, j'y ai pensé. Mais il faudrait admettre des complicités. Ah oui, ah si mademoiselle Stangerson pouvait parler, sortir de son coma.
Et le grenier, monsieur le juge?
Ah, un bon point pour vous, monsieur Rouletabille, j'avais oublié. Donc, 6 ouvertures. En effet, il y a une lucarne qui donne sur l'extérieur de la propriété.
Ah!
Oui, mais elle est également garnie de barreaux.
Ah! Donc, pour vous résumer, l'assassin s'est enfui sans que l'on sache comment, mais par la fenêtre du vestibule.
En gros, c'est cela. Et tout le pauvre.
Je suis tout à fait de cet avis, voyez-vous.
C'est encore une chose.
Bien sûr, je ne vous demande pas si vous avez trouvé des traces suspectes dans le grenier.
Ah non, ça c'est inutile. Aucune trace.
Ce qui revient à dire que ce n'est pas l'assassin qui a volé le revolver du père Jacques.
Oh, le père Jacques était avec le professeur, ce qu'il innocente. Quant au revolver, on a trouvé 2 balles dans la chambre jaune. L'une dans le mur et l'autre dans le plafond.
Comment ?
Dans le plafond. Oui, dans le plafond, parfait.
Comme c'est curieux.
Ah, c'est très curieux, ça. Dans le plafond. Mmh. Comme c'est curieux, dans le plafond.
Épinay-sur-Orge.
Ah.
3 minutes d'arrêt.
Pardon.
Épinay-sur-Orge.
Votre valise.
3 minutes d'arrêt.
Voilà. Épinay-sur-Orge. Messieurs, nous voici rendus. Croyez que j'ai été charmé de votre compagnie, mais le devoir m'appelle. Malène ?
Je vous suis,
allons-y. Monsieur le juge. Allons-y, pressons-nous, Sinclair.
Oui, à bientôt, monsieur le juge.
Épinay-sur-Orge.
S'il vous plaît, monsieur, combien de temps faut-il pour se rendre au château du Glandier ?
Ah, le château du Glandier ? Oh, ça dépend.
Mais ça dépend de quoi ?
Ben, ça dépend si vous êtes pressé. Normalement, faut bien compter une bonne heure et demie.
Parfait, tenez, voici nos billets. Merci. Mon bon maître, oui. Nous allons faire une charmante promenade, si vous le voulez bien. J'ai absolument besoin de marcher.
Ah ben oui, là, évidemment, si vous avez envie de marcher. Alors.
Alors, mon petit Joseph, ça se débrouille ?
Ah, mon ami, je vous trouve d'un optimisme délirant. Il n'y a rien de débrouillé pour l'instant, j'irai même plus loin. Tout me paraît plus embrouillé qu'avant. Heureusement, j'ai tout de même ma petite idée.
Oh, Rouletabille sans une petite idée, ce serait tout à fait étonnant. Allez, racontez-moi ça.
Désolé, mais je ne peux rien dire pour l'instant.
Quoi ? Même à moi ? Oh, cachotier.
Non, ne croyez pas cela, seulement je crains que mon idée ne soit une question de vie ou de mort.
Tant Joseph, vous m'aviez habitué à un humour moins macabre.
Oui, pardonnez-moi, Sinclair, mais...
C'est pas une plaisanterie?
Non, pas le moins du monde.
Mais qui serait en danger de mort?
Au moins deux personnes.
Vous croyez à des complices?
Non.
Bon, alors, décidément, je ne vous suis plus du tout.
Ah, mais ça n'a aucune importance, mon bon Sinclair.
Enfin, convenez quand même que le juge de Marquet vous a rendu un fier service.
Oui.
Enfin, cela dit, vous avez mené l'interrogatoire, alors ça, c'est du grand art. Oh. Ah, si. je m'y connais un peu dans les envolées de manchettes. Là, vous avez fait ça dans le sobre, le quotidien, le vécu. Ça, un grand morceau de comédie.
Je ne suis pas mécontent.
Et alors, vous avez appris beaucoup de choses?
Ben, oui, effectivement. Mon Dieu, pauvre femme.
Ah, vous pensez à Mademoiselle Stangerson?
Oui. C'est à n'en pas douter un très grand et très noble caractère, tout à fait digne de compassion.
Ah, vous la connaissez?
Qui ça?
Ah, Mademoiselle Stangerson.
Ah, mademoiselle, non, pas du tout. Je la connais pas du tout, j'imagine.
Alors pourquoi dites-vous que c'est un grand caractère?
Parce qu'elle a su tenir tête à l'assassin. Parce qu'elle s'est défendue avec un grand courage. Et surtout...
Oui, surtout?
À cause de la balle dans le plafond.
Rouletabille, mon ami, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez choisi 2 heures de footing au lieu d'un fiacre confortable?
D'abord par hygiène mentale.
Oh.
La marche aère l'esprit.
Non, qu'est-ce que vous me racontez?
Mais la stricte vérité, d'ailleurs, les avocats ne marchent pas assez.
Toujours aimable. Et ensuite?
Mais ensuite, parce que je voulais que nous profitions de cette marche pour faire ensemble l'inventaire de la situation avant le crime.
Avant?
Ben oui, il nous faut partir sur des bases solides. Pour l'inventaire après, il est préférable d'attendre d'être au glandier. Or donc, mon bon maître, puisque vous voulez absolument vous occuper de cette enquête avec moi...
Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que moi, c'est...
Mais enfin, c'est...
Mais c'est la vérité, vous en mourrez d'envie.
Ouf.
Et vous savez bien que vous êtes ma mascotte, hein? Vous êtes mon docteur Watson.
Non, mascotte, enfin, je serais curieux de savoir où tout ça va nous mener.
Oh, de toute évidence, au glandier, mon cher. C'est bien pour ça que je veux vous apprendre qui sont les Stangerson.
Les Stangerson? Mais vous vous moquez de moi, Joseph. Enfin, voyons, je les connais aussi bien que vous. Nous sommes rencontrés à la réception de l'Élysée l'autre soir. Et Robert Darzac, le fiancé de Mathilde Stangerson, est un de mes clients.
Et voilà, comme tous les avocats, vous avez réponse à tout et vous ne prouvez rien.
On se demande vraiment pourquoi vous m'avez demandé de venir.
Vous voulez vraiment le savoir?
Ah oui, par exemple.
Vous ne serez pas fâché?
Non. Là.
Eh ben, j'ai horreur de marcher tout seul.
Oh, Joseph!
Mais vous avez promis de ne pas vous fâcher. Allez, revenez. Et puis, j'ai besoin de vous. Vous connaissez Darzac et j'ai une documentation importante sur les Stangerson. Alors, à nous deux, nous allons faire de l'excellent travail au glandier. Attendez, d'après moi, nous y sommes.
Oh, c'est pas vrai. Cette bâtisse isolée en pleine forêt?
Oui, dominée par un donjon restauré par Viollet le Duc. Ça confirme assez bien mes renseignements. Tenez, cinq. Regardez la carte.
Oui.
Ici, à quelques centaines de mètres de la route.
Oui, Saint-Geneviève-des-Bois, Montlhéry. Ah, bah oui, château du Glandier, 17e siècle, c'est bien ça. Ah. Eh, ben, ça doit pas être facile à chauffer en plein hiver. Allez, en route.
Et vive le sport. Oh, regardez qui vient. Monsieur de Marquet, son merveilleux greffier, la justice est en fiacre. C'est une forme de magistrature assise.
Oui, cela dit, nous n'aurions pas mal fait d'en prendre un nous-mêmes.
Non, monsieur, la justice suit son cours, l'information prend son temps, mais elle ne se trompe pas. Oh, ouais, monsieur le juge! Eh ben, tout à l'heure, puisque vous ne voulez pas vous arrêter... Vous vouliez dire quelque chose, Sinclair?
Oui. On se demande vraiment pourquoi le professeur Stangerson et sa fille sont venus s'enfermer dans ce trou perdu. Enfin, Joseph, vous avouerez qu'une pareille bâtisse perdue au milieu de la forêt, c'est une invitation à tous les désagréments de la Terre. Ils sont combien à vivre là-dedans?
Ben, en principe, ils sont 5. Il y a le professeur, sa fille, le père Jacques, et puis les 2 concierges.
Et Ils ont tous un logement à part.
Oui, mademoiselle Stangerson aussi, d'ailleurs, à sa résidence d'été, puisqu'elle couchait dans le pavillon du laboratoire à 300 mètres du château.
C'est une bénédiction pour les voleurs, ça. Une fortune dans un château et un habitant par corps de bâtiment. À cet égard, l'affaire est simple.
Oui, mais vous n'oubliez qu'un petit détail.
Ah oui ? Ma foi, c'est bien possible, lequel ?
C'est que jusqu'à preuve du contraire, rien n'a disparu du château du Glandier.
Ça, je vous l'accorde. Et ils ont toujours habité comme ça ?
Qui ça ?
Bah, les Stangerson.
Ah, les... mon cher maître, vous qui connaissez Robert Darzac, vous devriez le savoir.
Oui. Je le sais pas. Alors, je vous le demande, et vous seriez gentil de ne pas m'appeler sans arrêt mon cher maître, alors qu'effectivement, je devrais être au palais.
Oh, allons, mon cher ami, vous n'allez pas vous fâcher, hein ? Le professeur Stangerson et sa fille habitent le Glandier depuis 15 ans.
Et auparavant ?
Auparavant, il vivait en Amérique. Le professeur est américain par son père. Il est né de mère française.
Ah, bah alors il est américain ?
Pas du tout. Ah, bon ? Ah, pas du tout. En dehors de l'exquise galanterie française dont il est vrai qu'elle se perd d'année en année, avez-vous déjà entendu parler de la galanterie américaine ?
Ah non, ça j'avoue que ça m'a échappé.
Mais c'est un tort. Pour épouser une Française, le père du professeur Stangerson a adopté la nationalité de sa femme. Ah, nous avons gagné un grand savant.
Mariage d'argent.
Délicat poète. Vous avez vu mademoiselle Stangerson ?
Ben comme vous, oui.
Eh ben c'est, paraît-il, tout le portrait de sa grand-mère. Cette beauté vaut bien un passeport, sans doute.
L'avocat, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ouais. Bon, je vous écoute.
Donc le professeur Stangerson, français, vivant en Amérique, y acquiert une très grande célébrité.
Ah oui, sa fameuse étude de la matière fissible par bombardement électrique.
C'est ça même. C'est un ouvrage passionnant et qui a déchaîné les protestations de tous les savants du monde. Vous connaissez bien sûr tous les procès qui ont fait suite à l'apparition du livre.
Ah, mais Stangerson les a tous gagnés.
Ou alors disons qu'il en gagne beaucoup, les autres se sont soldés par des transactions amiables, mais enfin tous lui ont rapporté beaucoup d'argent.
Oui, et ça aide.
Enfin, ça aidait. D'autant que Stangerson ne possédait aucune fortune personnelle. Il se considérait au service de l'humanité. Alors voyez-vous, l'argent des procès lui est apparu comme une fortune inespérée, lui assurant la tranquillité jusqu'à la fin de ses jours.
Au château du Glandier.
Oui, voilà. Et c'est à cette époque que le père et la fille sont rentrés en France et ont acheté le Glandier. Ils s'y sont installés.
C'est quand même malheureux d'enfermer là-dedans une beauté de 20 ans qui, à 35 ans, est encore jeune fille, et qui ne demandait qu'à s'épanouir.
Oh, qui ne demandait qu'à s'épanouir. Oh, ce qui me déplaît, mon cher, c'est que vous vous exprimez toujours à la perfection. Ah, la faculté tout de même. Ça laisse des traces, hein.
Joseph, c'est du venin, ça.
Non, c'est de l'humour.
Ah bon.
Bon, soyons sérieux, pour en revenir à Mathilde Stangerson, tout le monde l'a eu à l'époque et même par la suite. Exactement la même réaction que vous.
Il ressort de toute cette histoire un égoïsme forcené de la part du père.
Oui, on a dit ça aussi. Et puis, on s'est aperçu que c'était Mathilde qui avait exigé d'abord l'achat du Glandier.
Malgré sa situation isolée ?
À cause de sa situation isolée. Ah oui. Et elle a exigé ensuite de rester la principale collaboratrice de son père.
Enfin, Joseph, elle ne sort pas. Elle ne voit personne. C'est pas naturel.
Et elle est présente aux côtés de son père dans toutes les manifestations officielles.
Comme la dernière fois à l'Élysée. Enfin, c'est étrange.
Oui, et bien dommage, je suis d'accord avec vous.
Et alors, Robert Darzac ?
Oh, c'est pas moi qui vais vous apprendre que Darzac est depuis 20 ans le bras droit de Stangerson. Il collaborait déjà en Amérique avec le professeur.
Bien sûr. Et de ce fait, il était absolument normal que Darzac finisse par tomber amoureux de la jolie Mathilde.
Ben, que voulez-vous ? On peut être de science, on n'en est pas moins homme.
Et... Vous croyez qu'elle l'aime ?
Bah, écoutez, Darzac n'a aucune position sociale, ne possède pas de fortune personnelle. Si Mathilde l'épouse, je ne vois vraiment pas d'autre raison que l'amour.
Alors pourquoi a-t-elle attendu 7 ans avant de se décider à sauter le pas ? Parce que moi, je peux vous affirmer que depuis 7 ans, Darzac se consume d'amour pour elle.
Oui, je le sais, je suis au courant et... C'est même curieux, c'est très curieux, car au fond, il est libre. Mmh. Il est libre, ils travaillent ensemble sous la conduite de Stangerson, a priori.
Mais je peux même ajouter que pendant 7 ans, Mathilde a refusé catégoriquement d'épouser Darzac. Robert n'a rien d'un lausin, d'un séducteur fougueux, il s'est résigné. Et subitement, il y a quelques semaines, alors que plus personne n'y pensait, et surtout pas Darzac, fiançailles.
Oui.
Mathilde aurait donc fini par accepter par lassitude. Oui, mais voilà qui ne ressemble guère à l'image que je me fais d'elle. Et sinon, comment justifier, comment expliquer ce brusque revirement?
Bon, dites donc, vous croyez qu'on va finir par arriver au Glandier?
Mais bien sûr.
Oh, bon, enfin, on voyait très bien le château tout à l'heure. C'est encore loin, ce truc?
Nous arrivons, nous arrivons. Et ne me dites pas que vous êtes fatigué à votre âge.
À mon âge, moi, vous en avez de bonnes, vous. Vous êtes encore presque un gamin, tandis que moi...
Et vous, mon cher Sinclair, vous êtes dans la fleur de l'âge. Par parenthèse, vous voyez, hein, pour ce qui est de la poésie du langage, ma fleur de l'âge... Vaut bien votre qui ne demandait qu'à s'épanouir. Hein? Bon, allez, l'incident est clos.
Joseph.
VVV.
Je pense subitement à quelque chose.
Et à quoi donc, mon cher ami?
Mais quand Robert et Mathilde seront mariés, à votre avis? Elle le suivra à Paris pour vivre chez son mari?
Ça, alors, il me semble qu'il a été convenu que le couple viendrait s'installer au château du Glandier.
C'est pour la place qu'il doit manquer, en effet.
Darzac. Pauvre Darzac. Pauvre homme. D'abord amoureux béat.
Ensuite amoureux éconduit.
Et enfin amoureux récompensé. Et tout de suite sur les bords dangereux du veuvage.
Ouais.
Non, vraiment, tout ça est... C'est bien étrange. Je pense sincèrement que nous ne sommes pas au bout de nos surprises.
Dites-moi, Joseph, les Stangerson ont des voisins? Enfin, il y a quand même bien des gens qui habitent aux alentours du Glandier, non?
Je crains bien que non. Vous avez vu la carte comme moi. La situation du château est très nette. Et d'ici, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune localité dans les parages. Il n'y a pas le moindre lieu dit. Et d'ailleurs, le château du Glandier était inhabité depuis très longtemps quand les Stangerson, en rentrant d'Amérique, l'ont acheté. En fait, il faut aller chercher le plus proche voisin sur la route de Corbeil.
Bah, dis-donc, ça fait une trotte.
Eh oui, je pense bien, c'est l'auberge du donjon, là. Ah, ouais. Il faut compter également les deux ou trois maisons qui se trouvent à côté de l'auberge.
C'est quand même incroyable. Je sais pas, mais un pareil désert alors qu'on est si près de Paris.
Ah oui, ah, c'est un vrai désert.
Ah, cette fois, on est arrivé.
Oui.
Et plus j'y réfléchis, et moins je trouve plausible une attaque par les malandrins.
Ouais, ça je suis d'accord, l'hypothèse est absurde.
Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sombre, inquiet.
C'est la crainte de découvrir quelque chose d'horrible.
Oh, allons. C'est la première fois que je vous vois comme ça.
Sinclair?
Ouais.
Je suis bien content de vous avoir près de moi.
C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, deuxième épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rez, Malène, Yves Penaud, De Marquet, Roger Carrel, et les voix de Michel Amiel et Georges Lucas. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Ces deux premiers épisodes du Mystère de la Chambre jaune ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 1er et 2 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.